Donc, on va rappeler à nos auditeurs que nous sommes en direct et en presque vivant de la fête de la science à l'hôtel de ville de Tours. Et c'est la troisième intervention de cette journée. Donc, j'ai le plaisir d'avoir pour invité Luc Bergmans. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Delphine Rabier.
Bonjour.
Alors, on va vous présenter pour nos auditeurs et notre public expert qui est là également. Donc, Luc Bergmans, vous êtes maître de conférences en littérature néerlandaise à l'Université Paris-Sorbonne et au CESR. Quant à vous, Delphine Rabier, vous êtes ATER en histoire de l'art à l'Université de Tours et vous êtes chercheure associée au CESR. Merci à vous, grand merci d'avoir accepté cette invitation. Et alors, le sujet qui nous occupe, c'est le suivant, l'émotion de la découverte scientifique dans la peinture du siècle d'or hollandais. Peut-être qu'une mise en contexte s'impose. De quoi parle-t-on? Où se situe-t-on? Dans quel espace-temps?
D'accord. Mais parlons donc des Pays-Bas, des anciens Pays-Bas, et aussi de ce XVIIe siècle, puisque le siècle d'or des Pays-Bas du Nord, c'est bien le XVIIe siècle. En fait, un nouveau pays va naître à ce moment-là, suite à une révolte. Quand les Néerlandais disent la révolte, c'est évidemment leur révolte qui commence en 1566, lorsque des iconoclastes vont détruire des images des saints et des objets du culte catholique à Steenvoorde, qui se trouve actuellement en France, mais qui à l'époque appartenait aux Pays-Bas. C'est en fait le début d'une révolte inspirée par le protestantisme. Le protestantisme qui, évidemment, se répand partout en Europe, mais qui prend une forme particulière aux Pays-Bas. Donc, en fait, il y a plusieurs générations de protestants, d'abord les anabaptistes et puis les calvinistes. Et donc, en 1566, lorsqu'il y a eu ces actes de destruction, donc c'est bien un prédicateur calviniste qui a incité le peuple à s'adonner à de tels actes. Alors, cet événement, et puis l'iconoclasme, l'iconoclasme signifie on brise, on casse les images, ce mouvement se répand partout aux Pays-Bas, jusqu'à Groningue, dans le nord. Et ensuite, le roi d'Espagne, donc Philippe II va envoyer des troupes, c'est l'arrivée du redoutable duc d'Albe à Bruxelles qui va mener donc une politique de terreur et installer un tribunal sanglant, comme le peuple l'appelait, pour punir les protestants. Une longue histoire, parce que cette révolte est appelée également la guerre des 80 ans, donc début 1566, et ça se termine en 1648, à savoir à la paix de Münster ou de Westphalie. Alors, les anciens Pays-Bas, en fait, avaient connu leur période d'unification sous les Bourguignons, donc au 15e siècle. Donc, les ducs de Bourgogne étaient maîtres sur une région qui couvrait les Pays-Bas actuels, la Belgique actuelle, une partie du nord de la France. Et donc c'est le 15e siècle, c'est la période de l'unification. Mais au 16e siècle, ce sera donc la division causée par cette révolte. Et donc là, je reviens, donc, où j'arrive à notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la création d'un nouvel État. Donc il y a scission des anciens Pays-Bas et seul le nord persiste dans la révolte. La partie méridionale qui comprend le territoire de la Belgique actuelle et une partie du nord de la France reste sous domination espagnole. Donc, ce qui est très important de voir, c'est que...
Voilà, donc catholique.
Cette partie-là reste catholique. Mais l'autre partie, donc, qui va s'émanciper, va se séparer, donc ça devient un État souverain et c'est l'Espagne même qui le reconnaît donc en 1648. Et c'est un pays d'inspiration protestante, parce que c'est ça l'origine du mouvement et de la révolte. Alors, la situation religieuse est très complexe au XVIIe siècle, c'est-à-dire le protestantisme est dominant, mais le catholicisme est toléré. Et pour en revenir tout de suite arriver tout de suite à notre sujet, Vermeer est catholique. Il sera peintre catholique dans un pays protestant.
Voire même calviniste.
Oui, exact.
Donc là, on a le contexte. Peut-être que vous vouliez ajouter quelque chose, pardon.
Peut-être qu'on peut répondre à la question pourquoi s'agit-il d'un siècle d'or, hein. C'est un siècle d'or parce que ce nouveau pays qui se crée va devenir un pays très prospère et qui vivra d'une économie maritime. Donc c'est la grande période de la navigation néerlandaise ou aussi la création de colonies. Le pays, même si on ne peut pas dire que tout le monde en profite vraiment, mais c'est un pays riche et prospère, et plus que prospère. Donc il y a notamment un ouvrage qui a été consacré à ça il y a quelques années par l'historien et l'historien d'art Simon Chama, dont le titre est L'embarras des richesses. Il a écrit en anglais The Embarrassment of Riches, l'embarras des richesses.
Et c'est un nouveau peuple qui aime se faire représenter avec ses nouvelles richesses, qui est en train de construire sa nouvelle identité sociale, mais pas que. Et effectivement, là, ils ont tout à fait compris le pouvoir de l'image, le pouvoir du portrait, le pouvoir du portrait de groupe. Et c'est un peuple aussi qui est ouvert aux nouvelles sciences, le sujet dont nous allons parler maintenant à la suite. Alors juste peut-être une question avant d'en venir aux toiles que vous avez choisi de nous présenter l'un et l'autre, c'est de dire cette peinture, ce qu'elle a de particulier par rapport aux peintures qui existent à la même époque dans d'autres endroits. Pourquoi elle est spécifique ?
Oui, donc on assiste effectivement à des développements nouveaux aux Pays-Bas du Nord à ce moment-là. Donc la tradition picturale des Pays-Bas anciens a été surtout religieuse, n'est-ce pas ? Et ça continue. Il y a également, comme on verra chez Rembrandt notamment, donc beaucoup de scènes religieuses, notamment inspirées par l'Ancien Testament. Mais en quoi consiste la nouveauté ? C'est un grand courant, on pourrait dire, de réalisme. On s'intéresse à la vie des gens, à la vie de tous les jours, aux personnes représentées, donc avec parfois une précision photographique, mais dans le contexte de leur métier, parce qu'on est fier de ce qu'on est, de ce qu'on représente dans la société. Et ailleurs dans la peinture aussi, donc on voit beaucoup d'exemples de réalisme dans la mesure où on observe la nature, que ce soit les paysages ou encore les plantes. Donc on va pour la première fois non seulement décrire scientifiquement la tulipe, mais la tulipe on la retrouve ensuite dans les bouquets, les natures mortes, etc. Donc on observe la nature. Et pareil pour les oiseaux, il y a des peintres qui se spécialisent dans la représentation d'oiseaux, comme Home de Coulter. Évidemment, autre symbole néerlandais, la vache. Donc, le peintre Potter, Paulus Potter, est connu pour la représentation de la vache.
Donc, c'est-à-dire qu'on peint, donc, outre ces tableaux autour de l'émotion de la découverte dont vous allez nous parler, on peint des choses ordinaire, entre guillemets, la personne dans son quotidien, peut-être même des scènes, par exemple, dans une taverne ou des choses comme ça. Est-ce que c'est unique à l'époque ? Est-ce qu'on trouve ça ailleurs en Italie, par exemple ? Je pense que non.
On le trouve beaucoup plus, de toute façon, aux Pays-Bas. Donc c'est une orientation très nette de la peinture néerlandaise.
Et ce qu'on appelle les scènes de genre. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui est vraiment typique, effectivement, que l'on peut trouver, développé un petit peu en France ou ailleurs, mais qui est vraiment typique de la peinture flamande, de la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Et cette peinture, comment elle est perçue en Europe ? Est-ce qu'elle est prisée ou est-ce qu'au contraire ça peut être déconcertant de dire pourquoi ils peignent des choses comme ça ?
Non, on sait qu'elle est prisée, au contraire, hein, les marchands d'art, les marchands de tableaux, etc. Connaissent l'engouement et cherchent à obtenir ce genre de peinture qui est extrêmement appréciée du public, qui est bien payée également. Et puis il faut vraiment penser à une multiplication aussi des tableaux à cette période.
Donc c'est-à-dire que là, est-ce qu'on a déjà des peintres qui produisent, entre guillemets, c'est un anachronisme, mais en série ? Est-ce qu'ils font de la peinture, des motifs qu'ils reproduisent dans le but de vendre ?
De toute façon, il y a une accélération du marché de l'art à cette période. Lorsqu'on parle du 15e, 16e siècle, là, évidemment, seule la bourgeoisie, la noblesse ou ceux qui les entourent peuvent accéder à l'image. Mais là, on le voit, c'est tout à fait différent. Par exemple, avec Rembrandt, chacun va chercher à se faire portraiturer. La bourgeoisie, là aussi, c'est un terme qui englobe de plus en plus, finalement, toute la population d'Amsterdam, qui gagne de plus en plus d'argent, là aussi, cette population tout à fait nouvelle. Et qui cherche là aussi à se faire représenter, et je le redis, qui a vraiment compris aussi le pouvoir de l'image et cette idée de se faire immortaliser pour l'éternité, comme le faisaient avant finalement les nobles.
Est-ce qu'on trouve par exemple à cette époque-là de la peinture dans des lieux qui peuvent nous sembler surprenants, par exemple dans des boutiques, dans des tavernes, donc chez des gens qui n'appartiennent pas à la noblesse ?
On a... Vas-y Luc.
En fait, il y a beaucoup moins de noblesse et beaucoup moins de culture noble aux Pays-Bas. C'est plutôt la haute bourgeoisie. Et donc, beaucoup de ces peintres vont travailler pour ce qu'on appelle des Regenten, les régents, donc, qui appartiennent à la haute bourgeoisie, et qui vont décorer leur propre maison ou château, éventuellement.
Et puis se développe ce qu'on va voir tout à l'heure aussi. Les confréries, par exemple, donc là on va le voir, la confrérie des chirurgiens, etc., etc., vous voyez, par corps de métier, et chacun va chercher à se faire représenter donc ce qu'on appelle le portrait de groupe, et ce pourquoi Rembrandt s'est fait connaître, puisqu'il renouvelle cette approche du portrait de groupe dans les Pays-Bas du Nord.
Donc, les émotions et la science, c'est le thème quand même de cette fête de la science. Comment les sciences sont représentées dans ces tableaux-là ? Comment on les représente ?
Oui, donc là, il faut regarder de près, notamment les deux images, l'image de l'astronome par Johannes Vermeer, et puis autre tableau par lui, donc le géographe. L'astronome se trouve au musée du Louvre. C'est un tableau extraordinaire qui nous montre donc le scientifique dans le décor du lieu de travail, donc là où il développe ses recherches, fait ses lectures, et là où il écrit et où il réfléchit. Alors la particularité de ce tableau, c'est que donc, nous voyons un personnage qui fait ce geste vers le globe. Il s'agit d'un globe céleste. Et c'est un scientifique, mais précisons quand même que nous sommes dans une période où l'astrologie est encore très présente et très pratiquée, où il n'y a pas de séparation stricte entre astronomie et astrologie. Nous voyons un personnage qui cherche, donc sa main même vers le globe semble évoquer cette idée de celui qui tâtonne, qui devine, n'est-ce pas ? Et souvent chez Johannes Vermeer, il y a les tableaux dans les tableaux. Et ici, c'est le cas également, où il y a un tableau représentant Moïse. Or, Moïse était souvent associé cette recherche d'une prophétie basée sur l'observation des étoiles. Donc on voit le rapport avec ce que fait notre personnage de l'astronome. Et pour ce qui est du tableau du géographe, donc il est clair que ces deux se répondent. Il y a aussi ceux qui pensent que le modèle pour les deux tableaux aurait été le même. Une des hypothèses évoquées serait celle de la représentation de Anthony van Leeuwenhoek, qui vivait à Delft, aux Pays-Bas, c'est-à-dire la ville de Vermeer, hein, et que l'on considère comme le père du microscope. Et peut-être que lui a été un modèle pour les deux portraits de scientifiques. Alors il va falloir qu'on reparle de lui, mais peut-être que deux mots encore sur le géographe, avec l'importance des cartes géographiques, hein, des cartes célestes, mais aussi cartes géographiques. Là, il est important de souligner le rôle qu'a joué ce nouvel État des Pays-Bas dans le domaine de la conquête de nouveaux pays, le colonialisme, etc. Pour cela, il fallait évidemment des cartes précises. Hein, donc, et cette science, cette géographie et cartographie s'est beaucoup développée. Et même à partir du XVIe siècle, évidemment, celui qu'on considère le père de cette discipline est Mercator, et qui lui appartenait aussi aux Pays-Bas, mais aux Pays-Bas du Sud, Anvers notamment. Et au temps de Vermeer, donc il y a des maisons d'édition qui vont se spécialiser dans la production de cartes et aussi de globes. Donc on a pu identifier le globe dans ce tableau du géographe, n'est-ce pas, et on sait qu'il s'agit d'un globe de Hondius. Donc, les géographes, mais de façon générale, le monde scientifique est en fusion, je dirais, avec le monde artistique. Les peintres s'intéressaient à la science et les scientifiques aussi s'intéressaient à la peinture. Peut-être comme exemple, on peut donner la famille Huygens, qui était très puissante aux Pays-Bas. Constantijn Huygens, le père, était poète, mais aussi politicien. Il était secrétaire du Statuder, donc la position politique la plus importante aux Pays-Bas. Alors Huygens a eu plusieurs fils, dont Christian Huygens, qui est évidemment le célèbre astronome, qui a joué un rôle important dans les sciences en France également, puisque Colbert l'a appelé en France pour venir organiser l'Académie des sciences. Alors je mentionne cette famille Huygens parce qu'elle avait cette orientation très large. Donc elle s'intéressait à la poésie, à la science et aussi aux arts. Le père, donc Constantijn, raconte dans son autobiographie une rencontre avec Rembrandt. Et pour dire aussi quelque chose sur une technique qui sera très utilisée par Vermeer et ses collègues, la technique basée sur la caméra obscure, la chambre noire. Eh bien, donc Christian Huygens, le grand scientifique, s'intéressait particulièrement à la chambre noire et parle dans ses lettres de la beauté des effets que l'on pouvait obtenir grâce à cette chambre. Le principe de la caméra obscure était très ancien, ça remonte à l'Antiquité, mais ça revit beaucoup au XVIIe siècle. Et ça a permis de créer de magnifiques tableaux parce que on fabriquait ensuite des chambres noires qui permettaient la projection d'images sur le plan de travail des peintres. Et c'est ainsi qu'a été réalisée notamment la très célèbre vue de Delft par Vermeer aussi.
D'ailleurs, là, il n'y a pas eu une information intéressante ces derniers temps à ce sujet ?
Tout à fait. Donc ce tableau est d'actualité. Attendez, donc une dernière nouvelle à ce propos. Hein. C'était dans les journaux, c'était dans le Times d'hier, et je pense le Figaro d'aujourd'hui. On a fait de nouvelles découvertes par rapport à ce tableau avec la vue de Delft. on arrive à préciser exactement la date et l'heure à laquelle le tableau a été commencé. C'était en 1659, à 8 heures du matin.
Et ça,
ah, il faut comprendre, ce n'est pas une chambre noire comme une chambre noire photographique. Hein. Luc, je te laisse expliquer.
Oui, donc c'est un appareil qui permet de projeter une image, par exemple une vue sur l'extérieur, sur le plan d'image du peintre. Et ensuite, par exemple, nous n'avons pas dans le PowerPoint, mais la vue de Delft, la vue de cette ville. Donc Vermeer est devant sa fenêtre, utilise la chambre noire et l'image de la ville est projetée sur son plan de travail.
Elle
est à l'envers, mais il y a au moyen de miroirs, on peut corriger, etc. Et en plus, il y a des effets spéciaux qui se produisent naturellement si on utilise un tel appareil, notamment les effets de la lumière. La lumière qui apparaît comme se composant de touches blanches ou jaunes.
C'est ça, ça paraît comme du scintille, comme le ciel scintillé en fait. On voit vraiment des points de scintillement, par exemple, sur la proue des bateaux.
Et là, juste pour préciser ça, donc il y a l'invention scientifique et l'application de cette invention, mais il y a ensuite l'intervention du peintre. Qui cherche la beauté au moyen de cela. Donc c'est ça la collaboration entre science et art, et aussi c'est à ce moment-là que l'émotion intervient. Et ce que va faire Vermeer, c'est justement exploiter la présence de ces taches lumineuses. Et il va le renforcer cet effet en rajoutant, c'est ce que l'on voit dans les traits au tableau qu'il va faire de...
pas vraiment une économie du travail, si vous voulez. C'est une autre façon de percevoir la réalité qu'un instrument scientifique, en tout cas un instrument ici, la caméra obscura, lui permet de percevoir autrement ce qui l'entoure et de le rendre différemment sur la toile. Il ne faut pas vraiment voir une économie du travail, il faut plutôt voir une évolution du regard et du rendu de ce qui nous semble être, et en tout cas de ce qui semble être la réalité à Vermeer.
Alors moi j'ai d'autres questions de se dire cette idée, donc là on a des scientifiques au travail, disons, est-ce que c'est fréquent à l'époque aussi de peindre des intérieurs? Est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup?
Oui, il y a des scènes de genre qui se passent à l'intérieur des maisons et pas seulement dans des ateliers ou le bureau du scientifique, mais aussi on voit la vie de tous les jours dans une famille. Je pense à Jan Steen avec des scènes de famille, des enfants qui jouent.
Parce que là, je rebondis sur l'idée de la lumière et donc la question de madame. Ça demande quand même une certaine technique de savoir peindre de la lumière comme ça en intérieur, parce que là on voit par exemple sur les tableaux que vous nous proposez, là, le géographe, il y a des taches lumineuses sur le mur, on voit des reflets là par exemple sur le globe qui est sur l'armoire. Il y a même les fenêtres, donc tout ça c'est...
Mais on le sait en fait, Vermeer travaillait très lentement par rapport à ses contemporains. Il a laissé une très petite production derrière lui. On lui attribue aujourd'hui quoi, une vingtaine de...
Un peu plus.
Mais en tout cas des tableaux de petite dimension comme c'est le cas ici. Et on savait qu'il travaillait très minutieusement. On a parlé de cette technique de la caméra obscura, mais il travaillait aussi avec des mannequins en bois qu'il pouvait ainsi déposer dans l'atelier, etc. Et regarder aussi les effets de la lumière, ces effets changeants sur les vêtements, sur le mur, etc., etc. Et on voit en fait que finalement, très souvent, mais c'est souvent le cas dans les tableaux de Vermeer, la lumière est l'acteur principal du tableau.
Oui.
Mais pourquoi ce textile-là, ce drapé, là, ce tissu, ça aussi c'est un élément qui revient souvent dans la peinture.
Oui, donc, et en fait c'est une tradition néerlandaise qui subsiste. On met des tapis sur la table dans certains cafés, on le fait toujours, parce que ça crée
Il faut, sans doute voir le commerce avec, avec l'Orient aussi, hein,
oui,
les, voilà, qui est très très présent. Mais déjà chez les primitifs flamands, hein, chez Jan van Eyck, on peut voir dans des Vierges à l'Enfant, etc., de très très beaux tapis d'Orient, hein, qui attestent, hein, de ce commerce évident entre l'Orient et l'Occident.
Mais ça veut dire que c'est pour un regardeur de l'époque, c'est une évidence, du coup, que ça montre le commerce avec l'Orient. Peut-être que ça ne l'est pas pour un regardeur d'aujourd'hui, mais à l'époque.
Oui, donc c'est pas toujours évident.
En tout cas, ça faisait partie de leur culture visuelle,
oui, voilà,
sans aucun doute. Hein.
Qui était très développée et justement très, très symbolique, cherchant toujours le symbole. Mais peut-être pour en revenir au symbolisme, hein, donc dans l'étude du siècle d'or et la peinture du siècle d'or, au XXe et XXIe siècle, il y a eu plusieurs phases, en fait. Il y a eu une phase où on a tout interprété comme du réalisme, pur réalisme, comme si c'était le reflet photographique seulement. Puis il y a eu une réaction contre cela, et on a commencé à voir que ce qui paraît comme juste un élément du décor est en fait symbolique. Et pour analyser les tableaux, on a besoin des livres d'emblèmes, hein, donc les emblèmes qui existaient évidemment partout en Europe, qui n'ont pas été inventés par les Néerlandais. Ça vient plutôt de France et Italie. Mais ce genre connaît un succès extraordinaire aux Pays-Bas. Et donc ces emblèmes donc apparaissent, hein, donc dans des livres, des recueils, avec à chaque fois une image représentant un objet ou encore un geste simple, éventuellement un animal. En dessous, on voyait une devise, hein, qui n'expliquait pas vraiment l'image, mais qui créait un petit peu l'énigme, hein, parce que souvent on ne sait pas comment la devise se rapporte à l'image. Et en dessous, il y a un texte explicatif qui vous explique comment. Et alors, ce genre d'emblèmes étaient vraiment très courants, et ça faisait partie de la culture des lettrés à l'époque.
Oui, par exemple, dans les tableaux de Vermeer, vous pouvez voir à l'arrière-plan un petit personnage nu qui peut tenir une seule carte avec un cœur. Là aussi, ça peut venir, voilà, tout à fait de cette tradition de l'emblème, hein, pour montrer que il n'y a qu'un seul amour, la fidélité au sein du couple, etc., etc.
Mais pour prendre un exemple concret, donc parmi les thèmes souvent représentés, on voit la jeune femme malade, hein, la jeune malade. Mais donc on voit une pièce, on voit femme, et puis il y a la visite du médecin. Alors, très souvent, il y a des éléments dans le décor de la pièce qui font référence à l'amour, mais donc on ne les voit pas tout de suite, vous comprenez ? Ça peut être aussi, alors c'est un bel exemple en fait, ça peut être un instrument de musique. Dans les livres d'emblèmes, on voit que ce rapport entre amour et musique est établi. Mais donc, quand vous voyez un tableau, par exemple, par Jan Steen, vous voyez la jeune fille et l'instrument, vous dites, à l'époque, hein, ça disait, sa maladie est bien particulière, c'est la maladie d'amour, ou elle est peut-être enceinte. Voilà. Donc, ça donne des clés d'interprétation. Alors, celui qui est considéré comme le fondateur, c'est l'Alcia. Hein, donc, ça vient d'Italie et France. Enfin, je pense que nous avons des spécialistes dans la salle. Hein, donc voilà. Mais après, les Néerlandais sont très friands de cela. Ils vont vraiment néerlandiser le genre parce que, juste pour vous donner des exemples, aux Pays-Bas, dans le paysage néerlandais, il y a des moulins, par exemple, des moulins, mais pas seulement pour moudre le blé, mais aussi pour drainer les lacs intérieurs, pour en faire des polders. Eh bien, on va trouver dans les livres d'emblèmes des représentations de moulins avec un nouveau symbole, c'est-à-dire, hein, le moulin représentera le prince qui s'occupe bien de son pays, qui fait de sorte que l'eau nuisible est évacuée vers la mer pour ne garder que l'eau qu'il faut. Vous voyez, donc toutes sortes d'associations à partir d'objets appartenant à la vie de tous les jours.
Alors j'ai une autre question sur ce tableau du géographe. On voit en haut à droite, là, il y a des inscriptions en fait en chiffres romains, je crois. Qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est la signature de l'artiste et la date, tout simplement. Mais ça, on va le voir, hein, à partir du XVIIe siècle, c'est très fréquent pour les artistes de signer leurs œuvres. Hein. Voilà. Jan van Eyck est le premier, hein, par exemple, dans les époux Arnolfini. Alors en plus, on ne peut pas dire qu'il signe son œuvre, on dit plutôt qu'il appose son nom, hein, puisqu'il dit Johannes de Eyck fuit Eyck, hein, donc Johannes de Eyck était là. Il l'écrit en plus, non pas dans son écriture à lui, hein, mais il l'appose dans l'écriture de la chancellerie pour marquer son importance, en tout cas son appartenance, pardon, à la cour ducale. Donc on est vraiment dans cette transition aussi, hein, du peintre qui passe du statut d'artisan anonyme au peintre qui devient donc artiste et qui prend conscience de la valeur de son art et qui prend également conscience de lui. Et on pourrait là aussi commenter longuement, hein, la devise de van Eyck, qui va avec, hein, « als ich kann », de mon mieux, du mieux que je peux, comme je peux.
Oui, je crois que vous vouliez nous présenter une autre œuvre d'Delphine Rabier.
Je vous remercie de votre invitation. Et effectivement, à la suite de ces deux très beaux tableaux présentés par Luc, hein, les tableaux de Johannes Vermeer, je voulais également vous présenter donc deux tableaux de Rembrandt. Dans un premier temps, je voulais vous parler de la leçon d'anatomie du docteur Nicolas Tulpe, qui date de 1632, et de la leçon d'anatomie du docteur Damon, donc faite un peu plus de 30 ans plus tard, en 1656. Alors peut-être quelques mots pour présenter Rembrandt, s'il y a encore besoin de présenter Rembrandt aujourd'hui, hein, tant il y a eu d'événements autour de l'anniversaire de sa mort ces derniers temps. Rembrandt, c'est un artiste qui, dès son vivant, est reconnu comme un peintre majeur, hein, de l'école hollandaise du XVIIe siècle. Il est né à Leyden en 1606 et il est mort à Amsterdam en 1669. C'est l'une des grandes figures baroques du XVIIe hollandais. Alors, il s'est illustré à la fois comme peintre, mais également comme graveur. Et il est réputé, hein, pour avoir portraituré ses contemporains, pour sa technique du clair-obscur, hein, donc ce jeu en tout cas d'opposition entre ombre et lumière que l'on retrouve parfaitement maîtrisé ici dans cette œuvre de jeunesse, hein, donc dans la leçon d'anatomie du docteur Tulpe. Et il a également renouvelé, en tout cas contribué à renouveler le genre de l'autoportrait. Hein. On connaît beaucoup, hein, l'œuvre de Rembrandt par ses multiples autoportraits qu'il a pu faire tout au long de sa carrière. Mais en tout cas pour nous, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il a surtout contribué à renouveler le genre du portrait de groupe, un genre qui était très en vogue en Hollande au XVIIe siècle. Et on pensera notamment à son tableau le plus célèbre, La Ronde de Nuit. Mais on aura peut-être l'occasion d'en parler une autre fois. Alors la leçon d'anatomie du docteur Tulpe occupe une place essentielle dans la carrière de Rembrandt. C'est en effet grâce à cette œuvre que le peintre, tout juste âgé de 26 ans, donc il faut bien le comprendre, à ce moment-là, Rembrandt est une étoile montante, hein, vraiment de l'école artistique hollandaise. À 26 ans, il quitte Leyden, sa ville natale, et il fait son entrée artistique dans le milieu donc amsterdamois. Il faut bien comprendre que cette commande prestigieuse présente un grand enjeu pour lui, car c'est d'elle que dépendra sans doute son succès futur. Il en sait d'ailleurs tous les enjeux, car pour la première fois, hein, de sa carrière, il signe ici le tableau de son unique prénom. Avant, il pouvait le signer, hein, avec Rembrandt. Il faut le savoir, hein, Rembrandt, c'est uniquement son prénom. Hein. Donc, c'est la première fois ici, regardez, entre les deux personnages supérieurs, dans la partie supérieure de l'image, vous voyez, il y a ici donc une feuille sur laquelle on peut lire donc Rembrandt. Et c'est la première fois qu'il signe de son unique prénom, hein, une toile. Et ce faisant, il est clairement évident, hein, que Rembrandt emprunte ainsi, hein, la voie frayée par ses prédécesseurs, notamment italiens, Raphaël, Michel-Ange, mais également ses prédécesseurs du Nord. Et on sait que pour Rembrandt, il est essentiel pour lui de se situer vraiment à la suite de Lucas de Leyde, hein, qui était lui-même un artiste qui maîtrisait parfaitement peinture et gravure. Alors, cette œuvre était destinée au siège de la confrérie des chirurgiens d'Amsterdam, dans le bâtiment dit du poids public. Elle va y demeurer jusqu'en 1798, date de la dissolution de la corporation. Qu'est-ce que l'on voit ici ? Vraiment, que nous donne à voir Rembrandt dans cette œuvre ? On voit bien, dans un premier temps, qu'il s'agit d'un portrait de groupe qui commémore la seconde dissection publique ou leçon d'anatomie par le docteur Tulp, l'un des chirurgiens les plus célèbres de Hollande. Rembrandt a peint ici une œuvre dont la sobriété était évidemment celle attendue pour une commande académique. Il fallait évidemment que la commande soit acceptée par les chirurgiens d'Amsterdam. Mais, je vous l'ai dit en introduction, il renouvelle déjà avec cette œuvre le portrait de groupe. Comment il y parvient ? Eh bien, il parvient à éviter ce qu'on appelle la monotonie de la composition en choisissant une construction pyramidale et en donnant à chaque regard une orientation différente. Il s'est également montré audacieux dans le rendu de son sujet. Alors certes, il s'inscrit, alors là je vous montre pour ceux qui sont avec nous dans la salle, mais vous pourrez le retrouver aussi facilement chez vous. Donc il s'inscrit certes dans la lignée des peintres tels que Michel van Mierevelde. Regardez ici avec cette leçon d'anatomie qui date de 1617. C'est-à-dire qu'il s'inscrit bien dans le genre pictural typiquement hollandais du portrait corporatif. Mais attention, le piège est toujours le même dans ce type de portrait de groupe. Il faut que les commanditaires puissent chacun se reconnaître. Et surtout, on le voit bien ici dans cette composition de la leçon d'anatomie du docteur Van den Meer. Eh bien, à chaque fois, les personnages sont simplement alignés les uns à côté des autres autour du cadavre, alors qu'on le voit très bien, Rembrandt, lui, a réussi à apporter du mouvement dans son tableau, ce qui a séduit, évidemment, ses contemporains. C'est ça, on a l'impression qu'ils mettent les bustes, et puis le but est vraiment chacun a donné une certaine somme, chacun attend qu'on le reconnaisse, donc il faut que, ils soient tous en direction du spectateur pour vraiment immortaliser son image, ce dont on a pu parler en introduction.
Est-ce que je peux rajouter une petite anecdote ?
Bien sûr, Luc.
Rembrandt avait un élève, Samuel van Hoogstraat, qui a écrit un traité sur la peinture et qui va défendre son maître, Rembrandt, notamment lorsque celui-ci peint La Ronde de Nuit. Alors, La Ronde de Nuit, c'est un autre cas où Rembrandt change complètement les habitudes en ne plus posant les personnages l'un à côté de l'autre. Et Samuel van Hoogstraat dit, chez la représentation classique du portrait de groupe, on aurait pu les décapiter d'un seul coup. Donc il critique ça. Mais mon maître fait autrement. Effectivement, il fait autrement dans La Ronde de Nuit, mais ici également.
C'est ça, en important de l'animation, du dynamisme dans la posture, mais également dans les regards, puisqu'ils ne sont pas uniquement orientés, en tout cas, en direction du spectateur. Alors Rembrandt innove également d'une autre façon, parce que dans les leçons d'anatomie antérieures, je vous montre ici un autre exemple, comme dans celle du docteur Herbert. Eh bien, le visage du cadavre, alors on peut déjà aussi revenir ici avec Van der Meer, le visage du cadavre était souvent voilé par pudeur ou parfois il était tout simplement remplacé par un squelette. On voit bien pour pas qu'il n'y ait de, si vous voulez, de vision directe avec la mort. Ça va nous permettre de noter tout de suite l'aspect très réaliste de l'œuvre de Rembrandt, qui, je vous le rappelle, commémore donc cette seconde dissection publique réalisée par le docteur Tulp. C'est très bien documenté, on connaît la date. Il s'agit du 16 janvier 1632. On peut présumer que Rembrandt a pu assister à cette dissection. Cette dissection, on le sait, elle a été pratiquée en hiver, pour des raisons sanitaires évidentes. Le cadavre, on le sait, il s'agit de criminels récemment exécutés. Alors, disséquer un corps, c'est quoi disséquer un corps en Hollande au XVIIe siècle? Disséquer un corps, c'est une pratique qui est légale, qui est régulière dans la médecine des Provinces-Unies au XVIIe siècle. Et on le voit bien ici, il s'agit non seulement d'une leçon d'anatomie, mais il s'agit également d'une cérémonie mondaine qui attise la curiosité. Par exemple, on le sait, pour celle du docteur Demand, qu'on verra à la suite, cette entrée était payante et on sait qu'elle a, rapporté plus d'une centaine de florins aux chirurgiens, à la corporation des chirurgiens. Alors, de telles leçons étaient données fréquemment en public. Je vous montre ici une très belle gravure qui est connue. Ces leçons étaient fréquemment données, je vous le disais, en public, dans un amphithéâtre d'anatomie, comme celui donc de Leyde que l'on voit ici. Mais dans le cas particulier du tableau de Rembrandt, il n'y a aucune indication explicite de la présence d'un auditorium, d'un auditoire. Et on a plutôt l'impression ici d'une scène qui se déroule dans une salle banalisée. On peut l'expliquer là aussi parce qu'on le sait, en 1632, l'amphithéâtre d'anatomie d'Amsterdam n'est pas encore construit et c'est Tulp qui va entreprendre l'édification de cet auditorium quelques années plus tard. Il faut d'ailleurs savoir qu'à cette même époque, c'est Leyde qui est vraiment le centre, si vous voulez, le centre universitaire, le centre de recherche en anatomie le plus abouti des anciens Pays-Bas. Et Amsterdam cherche vraiment à rivaliser donc avec Leyde à ce moment-là. Alors certains historiens de l'art ont pu penser qu'il s'agissait peut-être d'une cave ici, peut-être la cave de la maison de Tulp, ce qui est quand même peu probable. On s'accorde aujourd'hui à penser que la leçon d'anatomie a eu lieu au premier étage de la petite halle aux viandes d'Amsterdam. Là aussi, où on le sait, les artistes, on se souviendra de Léonard, mais on sait également que Descartes, lui aussi, à ce moment-là, pouvait assister à dissection d'animaux, etc., ou pouvait regarder les bouchers travailler pour regarder la façon dont étaient faits les corps. Alors peut-être quelques mots sur ce lieu qui est vraiment une sorte de local étroit, faiblement éclairé. On voit bien à quel point Rembrandt, je le répète, ici qui n'a que 26 ans, maîtrise parfaitement cette technique du clair-obscur, ce qui lui permet de faire baigner ce lieu dans une lumière très froide, la lumière de l'hiver. Il fait bien ressortir la glaçante froideur du lieu, qui va très bien avec la scène, qui accroît cette impression de huis clos qui rassemble les vivants, le mort. Heureusement, la toile a été en partie restaurée, mais très longtemps, le passage du temps et les mauvaises restaurations avaient altéré notre vision du tableau, puisqu'au fur et à mesure, il y avait des couches de vernis en surface qui donnaient des couleurs très chaude, mais ce n'était pas du tout le cas à l'origine, parce qu'en fait, on le sait, Rembrandt s'est donné beaucoup de mal, beaucoup de peine pour vraiment donner l'illusion de la chair morte du cadavre situé au premier plan. Il a utilisé, on le sait aujourd'hui, du blanc de plomb, du noir de fumée, du ocre jaune, du ocre vermillon, vraiment pour travailler ce corps à la pâleur cireuse qui contraste avec l'éclatante blancheur, vous le voyez, des fraises et des cols que portent les personnages autour du cadavre. C'est pour ça, mais on voit bien en même temps qu'il n'a pas du tout la même couleur que les personnages vivants autour de lui et qu'il a vraiment cherché à travailler ce corps qui entre en putréfaction. Et on voit bien que il y a vraiment des différences de nuances et qu'il l'a regardé. Et en cela, Rembrandt est un peintre du réalisme. Alors, selon les données historiques, comment se passe une dissection en Hollande au XVIIe siècle? Alors, selon les données historiques, au XVIIe siècle, les dissections étaient souvent précédées. Et en cela, c'est intéressant pour nous, puisque ce n'est pas anodin de trouver un corps quasiment nu, portant le pagne, qui est exposé comme cela à la vue du spectateur, les dissections étaient souvent précédées d'une introduction moralisante. portant sur la fragilité de la condition humaine, en tout cas sur le double aspect de la condition humaine, à la fois la finitude, mais aussi les tentations permanentes. Elle se déroulait, cette dissection, en 3 jours, en hiver, à la lueur des chandelles. Le premier jour était consacré à l'éviscération de l'abdomen et du thorax. Là aussi, pour des raisons sanitaires évidentes, hein, voilà, on enlevait tout ce qui pouvait pourrir dans le corps du cadavre, en premier lieu. Le deuxième jour était consacré à l'étude de la tête et du cerveau. Et le troisième jour était consacré à l'étude des membres. Pourtant, qu'est-ce que l'on voit ici ? Le cadavre est intact. Le cadavre est intact. Et seule la dissection de l'avant-bras et de la main est montrée ici. Alors, qu'est-ce que nous donne à voir ce tableau ? Est-ce que c'est finalement un rendu fidèle, un rendu réaliste d'une réelle leçon d'anatomie ? Est-ce que Rembrandt, évidemment, avec l'amont de ses commanditaires, nous montre seulement un passage d'une leçon d'anatomie, c'est-à-dire la dissection de l'avant-bras ? Est-ce que par souci d'idéalisation vis-à-vis du corps, est-ce que pour ménager le spectateur, commanditaires ont demandé au peintre de représenter le corps indemne ? Voilà, il y a toutes sortes de questions. Eh bien, pour y répondre, il va falloir qu'on rentre un petit peu plus en détail dans le tableau et qu'on regarde notamment ce qu'est en train de faire précisément le docteur Tulp. C'est effectivement le docteur Nicolas Tulp, l'homme de la leçon, qui va nous donner la réponse à toutes ces questions. Alors, qui est-il ? On le sait, là aussi, sa vie est bien documentée, on a gardé des documents d'archives. C'est un des personnages clés d'Amsterdam, il est à la fois trésorier de la ville, bourgmestre à 4 reprises. C'est un homme politique, mais c'est aussi un anatomiste, un chirurgien. Et l'année du tableau, 1632, on le sait, depuis 1632, ça fait déjà 4 ans qu'il est ce qu'on appelle le praelector anatomiae, donc le professeur d'anatomie chargé de cours de la guilde des chirurgiens d'Amsterdam. Donc il enseigne toutes sortes de choses, la physiologie, la zoologie, l'anatomie chirurgicale, etc. Et cela 2 fois par semaine. Donc c'est à ce titre qu'il s'entoure des chirurgiens les plus connus de la ville pour immortaliser cette dissection publique, cette leçon d'anatomie, en tout cas cette mise en scène d'une corporation sociale influente qui a là bien compris également qu'elle pouvait, qu'elle devait se faire immortaliser en train de pratiquer concrètement une leçon d'anatomie. Et cela, on l'a vu avec les tableaux précédents. C'est la première fois que cela a lieu, parce que d'habitude, ils sont autour du cadavre ou autour du squelette, mais ils ne sont pas en train de pratiquer concrètement la leçon d'anatomie. On peut, dans ce souci d'immortaliser leur image, regardez, on le sait, leurs noms ont été en fait consignés sur la feuille que tient le personnage qui regarde en direction du spectateur, donc cet homme qui est placé à gauche derrière Tulp, et sur laquelle figuraient initialement donc tous les noms des personnages qui sont représentés ici. Bon, suite aux différentes restaurations, ils sont, vous le voyez, les noms sont devenus illisibles. Donc, en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que chaque homme a son importance, évidemment, particulièrement le docteur Tulp, qui est le seul autorisé à porter un couvre-chef ici. On l'a vu dans le dessin sous-jacent. Un autre personnage ici porte un chapeau, mais dans la version finale, Rembrandt l'a enlevé. Tulp est bien le seul ici qui a le droit de porter le couvre-chef. Alors Tulp, évidemment, ce n'est pas son nom d'origine. Il s'appelait à l'origine Nicolaas Claes Pieter Zoon, et il a troqué son nom pour celui de Tulp. Tulp, je pense que vous le comprenez très facilement, qui veut dire tulipe. Luc, tu en as parlé tout à l'heure, parce que cette fleur coûteuse et à la mode est très en vogue au XVIIe siècle. Et on le sait, c'est également grâce à cette fleur que sa famille a pu s'enrichir lors du premier tiers du XVIIe siècle. Et puis, il faut bien comprendre que pour le Hollandais du XVIIe siècle, lorsqu'il entend ce nom, Nicolas Tulp, eh bien pour lui, ça évoque un monde raffiné, un monde riche, un monde qui correspond bien aux ambitions politiques hein, de ce riche chirurgien. Alors Nicolas Tulpe, il est très bien mis en valeur hein, dans le tableau parce qu'il est isolé dans la première moitié de la partie droite et il a une position, regardez, très particulière. Hein. Lui, il est en train d'agir, vous le voyez, hein. Il est le seul qui est en train d'agir avec ses mains pendant que les autres le regardent, ou regardent en direction du cadavre, ou regardent en direction du spectateur, ou regardent en direction du livre qui est au pied. Peut-être je reviens sur l'image centrale, hein. Voilà, qui est au pied du cadavre. Donc, en tout cas, les autres, en le regardant, font de lui le personnage principal de cette scène, alors que les autres personnages sont regroupés sur la partie gauche de l'image et forment donc une pyramide compacte. L'identité du cadavre est également connue, on le sait, il s'agit de Harris Kint. Alors là aussi, hein, je ne vais pas spécialement détailler, mais on connaît beaucoup d'éléments. En tout cas, pourquoi lui est-il choisi ? Parce que c'est un voleur, évidemment. C'est un homme. On ne pratique pas d'autopsie sur les femmes à cette période, il faut le savoir. C'est un voleur, je le répète, donc c'est un criminel qui a été exécuté. Donc c'est-à-dire qu'il vit en dehors de la société, il vit en marge et de cette façon, il paye sa dette à la société. Et puis, c'est un étranger. Il vient de l'AI2, il n'appartient pas à Amsterdam. Donc, c'est peut-être, en tout cas, l'idée, c'est plus évident ici d'autopsier un non-citoyen de la ville d'Amsterdam. Alors, le docteur dévoile ici hein, à ses autres confrères, on le voit bien, là, je vais vous montrer un détail, hein, regardez, il montre à ses confrères la structure musculaire du bras, de la main gauche, de son cadavre. Il est en train, il fait plusieurs choses à la fois, hein. Il est en train de dégager les tendons, vous le voyez, et de l'autre main, il mime les contractions et les mouvements de ses doigts. L'exactitude anatomique du cadavre montre que Rembrandt hein, possédait une connaissance du corps humain et de la mécanique des mouvements comparable, hein, par exemple, à celle de Léonard de Vinci, qui a pu, on le sait, hein, pratiquer lui-même l'anatomie. Je ne vais pas rentrer dans les débats hein, qui ont eu lieu, parce que je pense que vous le savez, hein, cette toile a donné lieu à de multiples interprétations, mais on a pu débattre sur le fait que le rendu ne serait pas exact, que le bras droit cadavre serait trop court. Ce serait étrange qu'il soit trop indemne. Eh bien, aujourd'hui, on sait, grâce à une analyse au rayon X, que en fait, le bras droit qui est aujourd'hui indemne, initialement, c'était un moignon, puisque notre voleur avait déjà été amputé de la main droite. Et on peut supposer hein, que c'est la corporation qui a demandé à Rembrandt de rajouter une main indemne. On a également dit, attention, la tête n'est pas tout à fait dans l'axe du tronc. Là aussi, on a pu sans doute l'expliquer par le fait que cet homme a été pendu, hein, ce qui a pu donc désaxer sa tête. On nous a même dit que les muscles de l'avant-bras ne seraient pas correctement disposés. Mais là aussi, des spécialistes ont montré que cela s'expliquait par le fait que Tulpe est en train de tirer sur les tendons, etc., etc. Bon, aujourd'hui, en tout cas, on reconnaît hein, que Rembrandt s'est montré un fin observateur hein, de l'anatomie. Alors, si le docteur Tulpe a souhaité que Rembrandt le représente en montrant, vous voyez, les muscles de l'avant-bras qui commandent la flexion, enfin, si vous voulez, la flexion des doigts de la main, c'est que cette représentation le pose hein, et l'impose même hein, comme ce qu'on a il le veut hein, il veut être le nouveau Vésale hein, le nouveau Vésale certains utilisent même le terme de Vésale ressuscité en tout cas il veut être le nouveau Vésale des Pays-Bas hein, du XVIIe siècle. Je vous montre ici hein, le portrait de Vésale dans son ouvrage hein, qui sera édité plusieurs fois, donc la Fabrica, on le voit bien ici, il est en train de disséquer les muscles de l'avant-bras qui permettent la flexion des doigts de la main. Donc ici, il est évident hein, pour en tout cas le spectateur de l'époque, pour les chirurgiens de l'époque également, hein, qu'il y a un lien entre Vézal et Tulpe, lien qui se confirme d'ailleurs par le livre ouvert qui se trouve dans la partie inférieure à droite de la leçon d'anatomie. On pense qu'il s'agit sans doute du texte de Vézal lui-même, bon, à moins que ça soit une imitation, en tout cas, voilà. Donc c'est très important. Vézal et Tulpe, qui présentent, conformément finalement à cette pensée aristotélicienne, qui présentent donc la main comme finalement l'instrument des instruments, c'est-à-dire cette remarquable structure du corps humain qui conduit à louer la création de Dieu, eh bien, ils se prennent ici, tous les deux, comme vraiment des héritiers d'Aristote, mais on va voir que Tulpe va plus loin. Tulpe va plus loin. En effet, Tulpe va plus loin que Vézal, parce que, comparé à la gravure que je viens de vous montrer précédemment, Vézal a les mains, si vous voulez, qui touchent directement le cadavre. Ce n'est pas le cas ici, regardez bien. Tulpe ne touche pas directement le cadavre. L'expérience de la dissection va plus loin. Il ne montre plus seulement la structure de l'avant-bras et de la main, mais que nous montre Tulpe ? Il nous montre son fonctionnement. Il montre bien le fonctionnement de la main et de l'avant-bras. Donc ce n'est plus une simple leçon d'anatomie, mais pour certains, il va même plus loin, et ce serait donc ici une leçon de physiologie. Une leçon de physiologie, c'est-à-dire une étude du fonctionnement, d'accord, d'une partie du corps, ici donc de l'avant-bras et de la main. Et puis il ne faut pas oublier à ce moment-là que Descartes est là, Descartes est en Hollande, alors oui, il fait des allers-retours avec la France, etc., mais Descartes, à cette même période, réfléchit déjà, et il y a une réflexion très aboutie, au lien qu'entretient le corps et l'âme. Pensons aux Passions de l'âme, qui, certes, c'est un ouvrage qui sera publié un petit peu plus tardivement, on est en 1649, mais les idées sont là, les idées sont contemporaines, les choses avancent ensemble. Et Descartes se présente, lui aussi, comme un précurseur de la neurophysiologie, de cette interaction du corps et de l'esprit. Il faut bien comprendre que la connaissance des savants évolue sans cesse et que ici, Rembrandt en est finalement le... Finalement, Rembrandt ici l'atteste et place cette évolution scientifique sous son pinceau. Alors, pour terminer, pour dire encore quelques mots sur ce tableau, ce qu'il y a d'intéressant aussi, je vous en ai parlé autour, c'est cette façon dont il renouvelle en fait le portrait de groupe. Et je voudrais qu'on regarde un petit peu plus intensément la façon dont les personnages autour de Nicolas Tulpe regardent cette leçon d'anatomie. Tous les personnages présents dans le tableau sont immortalisés dans une dynamique, et c'est bien la dynamique de la curiosité, de l'émotion face à cette leçon d'anatomie. On voit bien qu'il y a une tension des corps, une tension des regards, tous se pressent pour regarder le cadavre au centre de l'image, pour regarder la démonstration de Nicolas Tulpe. D'ailleurs, Rembrandt a su parfaitement rendre les différentes émotions face à la leçon d'anatomie. Le tableau, vous le voyez, s'organise. Bonjour. Le tableau s'organise en différentes structures pyramidales. La personne de Tulpe elle-même forme donc une pyramide massive dans la partie droite de l'image. Il s'impose ainsi, mais aussi il s'oppose à la partie droite du tableau. Donc dans la partie droite du tableau, on a les assistants qui forment eux aussi des structures pyramidales. Il y a tout d'abord, on peut le voir, un premier triangle, vous le voyez, externe. C'est celui des personnages qui semblent plutôt regarder en direction du spectateur. Alors regardez, il y a évidemment une invitation à voir le tableau. Il y a une invitation à regarder le livre ouvert au pied du cadavre, cette invitation à comparer, à vérifier, on le répète, Tulpe ici est le nouveau Vézal de la Hollande du XVIIe. D'ailleurs, l'un des personnages se pose ici comme un personnage admoniteur. C'est le personnage que vous pouvez voir donc tout en haut de la structure pyramidale. Un personnage admoniteur, c'est celui qui regarde en direction du spectateur et qui, en même temps, d'accord, lui désigne ce qu'il doit regarder. Est-ce que vous le voyez bien, ce personnage, tout en haut de la structure pyramidale ? Donc, il nous dit ce que nous devons regarder, c'est-à-dire donc la leçon d'anatomie. Le spectateur est donc tout simplement désigné comme étant le huitième élève de cette leçon d'anatomie. Lui aussi doit se saisir du message du tableau et entrer dans cette scène. Un triangle, si vous voulez, un troisième triangle interne est également présent. Il est constitué des personnages penchés en avant, dont l'un, regardez, masque la tête du cadavre, donc la laissant à moitié dans l'ombre. Il y a un effet comme cela produit qui fait que, regardez, il y a toutes sortes de tensions au niveau des regards, on peut voir l'attente, l'attention, etc., etc. Donc il multiplie ainsi les regards et les émotions autour de la découverte, autour de la démonstration de Nicolas Tulpe. Et enfin, cette grande tension que l'on sent dans l'œuvre provient du contraste entre immobilité glacée du cadavre situé donc au premier plan et puis évidemment la dignité fonctionnelle du professeur, ce professeur d'ailleurs, regardez, qui ne regarde pas ce qu'il est en train de faire, il regarde un point qui est situé au-delà du tableau sans doute aussi là, pour mettre en valeur sa dignité et puis je le redis, tous ces autres regards qui se portent sur le cadavre, au-dessus, en dessous, à côté, et qui regardent également donc en direction du spectateur. Donc on comprend bien ici, finalement, que la découverte scientifique va de pair avec la découverte artistique. Les deux fonctionnent ensemble. Il y a vraiment un jeu d'influence réciproque. Les scientifiques ouvrent les corps, les étudient, ne regardent plus simplement leur structure, mais cherchent à comprendre le fonctionnement du corps. Et les artistes, eux, cherchent à montrer, à retranscrire le plus fidèlement le corps humain. Et cela, ça remonte évidemment à la Renaissance. On redécouvre la statuaire antique, mais on ne va pas s'en satisfaire très vite. Les Italiens vont chercher à comprendre le fonctionnement du corps humain. Et c'est quelque chose que l'on va retrouver aussi dans ce tableau du XVIIe siècle. Et donc les artistes cherchent aussi à montrer les nouveautés de la science en donnant une dimension esthétique à ces innovations. Et peut-être aussi ce qu'il y a d'intéressant, Sveltana Alpers le montre très bien dans son étude sur l'œuvre de Rembrandt, eh bien elle nous dit... La dernière main à laquelle il faut penser, c'est évidemment la main du peintre, c'est celle qui a rendu possible cette image, cette main qui reproduit fidèlement le monde, cette main qui reproduit les cercles parfaits. Regardez, je vous le remets sous les yeux, un très bel autoportrait de Rembrandt, celui qui est conservé à Londres, qui date de 1661. Cette main du peintre qui sait reproduire les cercles parfaits, comme nous le montre Rembrandt dans ce dernier autoportrait.
Merci Delphine Rabier. Alors juste peut-être que vous avez parlé de ce travail de lumière, et alors peut-être qu'on peut souligner aussi l'incroyable texture des noirs de ce tableau, parce qu'on voit les habits en fait des élèves qui sont surtout sur le côté gauche. Et l'habit aussi même du docteur Tulpe, vraiment une texture incroyable de noir. Donc comment on obtient ça ?
Alors c'est vrai que je l'ai peut-être un petit peu rapidement évoqué tout à l'heure, mais alors effectivement on a bien parlé tout à l'heure de la technique du clair-obscur, mais effectivement Rembrandt aussi va travailler vraiment à partir de pigments, il va innover, travailler à partir de charbon, etc. pour rendre des noirs parfaitement profonds et ainsi jouer sur un contraste vraiment saisissant entre les zones d'ombre et les zones sombres et les zones de lumière, pour mettre ainsi vraiment en évidence les collerettes ou encore les fraises des chirurgiens, mettre ainsi en évidence leur visage, mais pas leurs mains. Vous le voyez, hein, les mains sont très peu mises en évidence, sauf celle évidemment du docteur Tulpe et celle du cadavre.
Et alors, il y a une autre chose aussi, sauf le. Je vois qu'il y a une intervention peut-être dans le public. Et parce qu'on, comment dire, vous nous avez montré aussi cette image, ce portrait de Vézal. Donc oui. Là, qui là regarde avec défi quand même le regardeur. Enfin, regarde le. Et alors, ce regard-là, on le retrouve pas chez Tulpe. Lui, il regarde pas directement le public.
Non, il n'y a pas cette. Alors ici, on voit bien que justement, Vézal va chercher. Mais alors là, on n'est pas du tout dans le même contexte. Hein. On est vraiment dans le contexte de planches aussi anatomiques. Hein. Là, on est dans le contexte d'un portrait de groupe où on représente finalement un événement très particulier. Et ici, Vézal aussi, en se représentant donc avec le bras. Se montre bien aussi hein, que la main, c'est ce qui, alors selon Aristote, hein, c'est ce qui nous distingue des autres animaux. Hein, l'homme est celui qui a la main, et c'est une façon aussi de célébrer la création. Et non seulement Vézal regarde en direction hein, de celui qui va ouvrir ses planches anatomiques, mais regardez qu'est-ce qu'il met bien en évidence au premier plan de l'image, c'est également sa main.
Une autre question, donc là il est question de dissèque plutôt des hommes, rarement des femmes, mais est-ce que les femmes peignent ? Est-ce qu'elles peignent aussi à cette époque-là ? Est-ce qu'on a des tableaux de oui. femmes peintres ?
Oui, on a des tableaux de femmes peintres. Alors on n'a pas de tableaux de leçons d'anatomie par des femmes peintres, mais on peut avoir effectivement des portraits comme Judith Leister, ou on peut avoir plutôt des scènes de genre, ou alors des autoportraits de femmes. Mais on n'a pas ce type de tableau, en tout cas, qui nous soit parvenu. Mais je ne pense pas non plus par les documents, non. Non, hein, ce sont surtout les hommes hein, qui traitent comme ça les tableaux de confrérie, etc., etc. Ce tableau de la leçon d'anatomie a sans doute, même j'enlève le sans doute, hein, il a beaucoup plu hein, à la confrérie des chirurgiens, puisqu'une trentaine d'années plus tard, le docteur Damon va, et huit autres chirurgiens hein, vont lui commander un nouveau portrait de groupe qui était destiné donc à être accroché à côté de celui hein, de la leçon d'anatomie du docteur Tulpe. Malheureusement, vous le voyez aujourd'hui, on n'a conservé qu'un fragment en fait, de ce tableau qui a été gravement endommagé dans un incendie en 1723. Alors là, c'est sans doute aussi, je voulais également vous en parler parce qu'il y a aussi notre émotion, vous voyez, le fait de resserrer hein, l'image. Alors, on le connaît, hein, le tableau d'origine. Alors, d'après un, si vous voulez, un dessin ancien où figuraient les neuf chirurgiens. Donc, le dessin nous permettait de voir hein, qu'il y avait un amphithéâtre, sans doute en bois. Et là aussi, on connaît le nom du cadavre. Il s'agit de Joris Fontaine, qui a également été exécuté pour vol. Mais vous le voyez, le fait que l'œuvre ait été endommagée resserre la composition sur elle-même. Et aujourd'hui, c'est nous, hein, spectateurs du XXIe siècle. D'ailleurs, quand on parle de la peinture de Rembrandt, on utilise souvent le mot « universel ». Pourquoi ? Parce que c'est une peinture qui touche à beaucoup de sujets, mais c'est aussi une peinture qui a su parler hein, du XVIIe jusqu'à aujourd'hui, hein, profondément à nous, humains, spectateurs, etc. Et on le voit bien ici, hein, la composition est différente. Les chirurgiens, en principe, étaient, si vous voulez, situés symétriquement autour du cadavre. Mais aujourd'hui, on voit seulement les mains du docteur Damon occupées, regardez, à dégager le cerveau. Il est en train de manier le scalpel. Et sur la partie gauche, nous avons son assistant, hein, Calcon, qui tient dans la main... Regardez la calotte crânienne. Hein, vous le voyez ici, ce qu'il est en train de tenir à la main, c'est la calotte crânienne. Et à cause de cet effet resserré, regardez, on a vraiment l'impression que cet assistant, eh bien aujourd'hui, c'est un peu notre un Hamlet qui semblerait comme cela méditer sur la mort. Hein, regardez notamment avec ce vêtement protestant hein, typique, hein, vêtu de noir avec quelques touches blanches ici et là. Donc et puis, effectivement, on est encore dans une leçon d'anatomie, mais ce tableau, il est très intéressant également pour nous dans ce dialogue entre art et évolution de la science, parce que, vous le voyez, le cadavre est traité, c'est ce qu'on appelle, donc en histoire de l'art, on appelle ça un traitement en raccourci, d'accord ? Un traitement en raccourci. eh bien, évidemment, pour le spectateur averti de l'époque, Rembrandt s'inspire clairement d'un des plus grands modèles italiens. Il s'agit ici du Christ mort, en tout cas la lamentation sur le Christ mort d'Andrea Mantegna, conservée aujourd'hui à Milan. Donc on voit bien encore une fois que art et science se questionnent, se répondent et cherchent ensemble à reproduire le plus fidèlement possible le fonctionnement, la structure du corps humain. Voilà. Et puis, puisqu'on est dans la journée, la fête de la science, je voulais... Alors, il y a toutes sortes d'expériences autour des tableaux de Rembrandt. Si vous voulez, ces tableaux ont beaucoup inspiré les scientifiques d'aujourd'hui. Alors, par exemple, pour la leçon d'anatomie, c'est intéressant parce qu'on le sait, par exemple, qu'en 2014, il y a eu une étude de neurosciences qui a proposé d'utiliser la leçon d'anatomie pour étudier l'imagerie cérébrale fonctionnelle des sujets qui étaient en train de contempler les tableaux, donc pour comprendre, si vous voulez, le fonctionnement neurocognitif des amateurs d'art. Bon, on le comprend, la mise en abîme est totale, puisqu'on est dans une leçon d'anatomie et on se sert d'une leçon d'anatomie pour regarder comment fonctionne le cerveau de celui qui regarde un tableau. Là aussi, pour toutes ces questions autour des zones de flou dans les tableaux de Rembrandt, on s'est posé des questions. Est-ce qu'il était atteint d'un strabisme divergent, etc., etc. Bon, aujourd'hui, la question n'est pas tranchée. Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Il s'agit bien d'un effet désiré par l'artiste. Et pour terminer, je voulais vous montrer ce tableau, qui s'appelle donc The Next Rembrandt, qui donc c'est un, comme je vous l'indique, c'est un portrait numérique. Alors, en fait, à partir d'échantillons de l'œuvre du maître, de l'analyse de sa technique, l'université de technologie de Delft, donc aux Pays-Bas, associée à Microsoft, ont dévoilé en 2016 une nouvelle toile de Rembrandt, regardez, qui a été produite uniquement par intelligence artificielle et qui est ressorti donc grâce à une imprimante 3D. Figurez-vous que les amateurs d'art se sont fait avoir. Ils ont cru que nous avions encore découvert un nouveau Rembrandt. Eh bien non, ici, c'est bien l'intelligence artificielle qui a créé ce très beau portrait et se faire avoir également effectivement ce tableau a toutes les particularités le traitement de la lumière, le traitement du modelé, le traitement de la couleur, le regard, la façon dont le portraituré est coupé au niveau du buste, etc., le jeu sur le fond à la fois uniforme mais légèrement vous voyez mis en texture grâce à la lumière. On retrouve bien ici tous les éléments qui composent la peinture de Rembrandt. Eh bien non, c'est l'intelligence artificielle, c'est la science qui nous a permis ici de regarder ce nouveau Rembrandt. Alors une fois qu'on le sait, évidemment, l'émotion de l'amateur d'art n'est pas la même, je vous l'accorde, mais ça me paraissait intéressant de vous montrer cette œuvre.
Et alors, si on jamais d'aventure, nos auditeurs veulent en voir un vrai sans quitter Tours, on peut dire que Don de Madame Chausmich, il y en a un au Musée des Beaux-Arts.
Tout à fait. Au Musée des Beaux-Arts, nous avons, alors, c'est une des particularités de Rembrandt, qui a peint énormément d'œuvres, mais aussi, on le sait à un moment, qui a pu, en fin de carrière, répandre aussi des œuvres signées, etc. Donc il y a eu une grande politique qui a attribué, mais qui a aussi désattribué beaucoup d'œuvres de Rembrandt. Le Musée des Beaux-Arts en a fait un peu les frais il y a longtemps. On a dit c'est un Rembrandt, ce n'est plus un Rembrandt. Aujourd'hui, c'est accordé comme un Rembrandt. Et effectivement, on a un très beau tableau, un tableau de Genèse de l'époque de l'AI2. C'est une fuite en Égypte, une très petite fuite en Égypte, mais qui est tout à fait magnifique. Et on voit à quel point le jeune Rembrandt maîtrisait déjà la technique du clair-obscur.
Eh bien, merci beaucoup à vous deux pour tous ces éclairages sur cette peinture. Je me tourne vers notre auditoire. Est-ce que vous avez des questions ? Silence de mort.
En tout cas, merci à l'auditoire d'avoir participé au fur et à mesure aussi de l'intervention, ce qui était très agréable. et merci à vous de votre invitation.
Eh bien de rien, est-ce que vous voulez nous rappeler peut-être où est-ce qu'on peut lire vos travaux à l'un et à l'autre ? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut, ou à défaut, s'informer si on est curieux et qu'on a envie d'en savoir plus sur cette peinture ?
Oui, vous pouvez retrouver donc nos travaux sont essentiellement gardés donc au Centre d'études supérieures de la Renaissance.
Consultez le site hein, et donc là vous avez toutes les publications des divers chercheurs et chercheurs
du CESR. Merci.
Et si on veut consulter sur place, est-ce qu'on peut aller au CESR et demander à voir des choses, ou est-ce que c'est réservé aux chercheurs et chercheureux ou étudiants ?
Non, vous pouvez vous aussi. Hein, alors, je pense qu'il faut que vous envoyiez un mail, etc. à l'avance, mais tout le monde peut accéder. En tout cas, peut-être pas emprunter les ouvrages, mais peut accéder à la bibliothèque du centre.
Et alors, pour une dernière question, après je vous libère. voilà ce que vous nous montrez ici, Delphine Rabier, donc une œuvre numérique. Et je crois savoir que le CESR travaille aussi beaucoup sur des supports numériques de médiation, notamment.
Oui, tout à fait. Et alors d'ailleurs, on vous invite hein, avec Luc. Nous, on va y aller demain matin, puisque au CESR, effectivement, il y a en ce moment... aujourd'hui et demain, des présentations. Par exemple, je pense à Marion Poudon-Machuel, qui travaille sur la restitution du cœur de Chartres. Vous voyez, tout un travail en 3D.
Bon, merci beaucoup à tous les deux. Merci à notre public nombreux et motivés, bien sûr. Et voilà, chers auditeurs, on vous invite évidemment à aller regarder tout ça de plus près.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.